Bonsoir à toutes et à tous, c'est la reprise des voisines. Comme vous pouvez l'entendre, ce n'est pas la voix habituelle. Phébé nous a malheureusement quittés pour des raisons de distance. Mais si vous nous écoutez tous les jeudis soirs, qui sait ? Elle reviendra peut-être.
Ouais. Oh.
Ce soir, du coup, je ne suis quand même pas seule. Ah. Je suis avec Valentin qui nous fait les onomatopées depuis tout à l'heure. Oh. Et avec Thomas à
Bonsoir.
La réalisation, comme d'habitude, fidèle à son poste. Comment vous allez ?
Ça va et toi ?
Bah écoute, ça va très super. Bien.
T'es prête pour la rentrée alors ?
Bah ça va, ouais, on commence. J'espère que la rentrée de tout le monde se passe bien. Enfin, rentrée, ça fait un mois maintenant, mais...
Tu reprends un petit peu le dur flambeau.
Je reprends le lead. On va un peu changer des petites choses dans le concept. On va avoir quelques invités cette année. Ça ne sera plus un petit huis clos. Voilà.
Tu m'as l'air en pleine forme.
Bah ça va.
T'as passé un bel été, Émilie ?
Oui, très bel été. Ouf.
Bah ouais. Super.
Il y a plus de bed.
Non, cool, ça arrive. On est
du
là.
Du coup,
c'est la rentrée. Ouais. C'était quoi ta question?
Bel été, tout le monde.
Froid. On était froid.
Ouais, on n'a pas eu. Ouais, c'est vrai. Bien dit ça.
Vous êtes pas parti au soleil.
Ouais, un peu. On a essayé de faire ce qu'on pouvait quoi. Et toi?
Moi, je suis partie au soleil. Et
ensuite,
je suis partie dans le froid. Je suis partie en Corse.
Oh, et après?
En Auvergne.
Aïe.
Ouais.
Encore une belle idée,
c'est un choix très judicieux.
Ah, froid, ça.
Bref, donc voilà, nous voilà de retour pour nos éventuels nouveaux auditeurs. Je rappelle que nous sommes une émission qui... Je sais plus faire mes phrases, pardon. Cette émission appartient à l'association des vilaines, pas du tout des voisines, qui est une association de promotion de la culture et de création d'événements. On a notamment fait les deux éditions du festival Les Vilaines, du coup, à Vieille-Église en Yvelines, en septembre 2023 et septembre 2022. Petite pause en 2024. Nous revenons en 2025.
Oh,
voilà, c'était tout pour les présentations. De quoi on parle aujourd'hui ?
Parce qu'il
faut bien repartir. Non, on arrête de me couper.
Il est où ce festival ? Tu l'as pas dit ?
Si, je l'ai dit, Vieille-Église en Yvelines.
Ah, pardon.
Voilà, tout ça pour ça. Super la rentrée, c'est pas grave. Pour reprendre du coup, de manière assez chill, j'étais là... Arrêtez de faire des petites mêmes bases, vous me déconcentrez. Je voulais reprendre donc de manière très chill, c'est-à-dire en faisant un truc que entre nous et en parlant de cinéma.
Ah.
Mais pas comme la fois d'avant, on va être un petit peu plus précis, un peu plus technique, moins sur juste nos goûts de films, etc. Donc déjà j'ai une première question.
Oui.
Un peu technique, un peu trop, je ne sais pas, mais... Oui. Quel est le but pour vous du cinéma, individuellement, chacun d'entre vous?
Tu plonges dans
je
le plat.
Je plonge directement dedans. On y va.
Très bonne question.
C'est profond.
Oui, c'est profond.
Effectivement, il faut que je réfléchisse à deux fois en fait. Parce que
moi, j'ai une réponse.
Vas-y, c'est parti, on t'écoute.
Moi, je dirais se divertir.
Ah, c'est tout?
Bah, en fait, j'aime bien le côté un peu beau. Il y a un aspect un peu, tu vois, belles images un peu aussi, tu vois.
Ouais.
Et divertir en vrai. À la base, le cinéma, c'est vraiment se divertir. Les premiers films, c'est le divertissement. Mm-hmm. Voilà. C'est
tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Thomas.
Bah, en fait, j'irai un peu plus loin quand tu parles de la base du cinéma. Par contre, ne touche plus à ce câble de micro parce que je vais tout casser. Donc, je dirais à la base, en fait, le cinéma, c'est quand même d'un point de vue scientifique qu'il a été créé. En vérité, si je puis me permettre.
Par le frère Lumière, c'est ça ?
Effectivement.
Oui.
Tout à fait.
De toute façon, de la photographie, tout ça. Mais après, tout art, toute technique est scientifique d'abord, avant de devenir artistique.
Attends, est-ce qu'on peut rappeler ton palmarès en termes de cinéphilie ?
Ah, tu veux dire que c'est mon métier ?
Bah, un peu. Enfin, c'est ton.
Alors, ça, on y viendra plus tard.
Ah, pardon.
Est-ce qu'on peut rester sur les sujets, s'il vous plaît ? Cette émission est préparée, merci à vous.
C'est my bad.
Donc je reprends. Le but c'est de la création. Enfin, c'est comme toute œuvre artistique, c'est, j'ai envie de dire, de la création. Et comme dirait Blaise Pascal, en fait, qu'est-ce que c'est que le divertissement ? Qu'est-ce que c'est que le rire ? Il est là pour oublier que nous sommes mortels. C'est le divertissement. Le divertissement, qu'est-ce que ça sert ? Blaise Pascal. J'ai oublié le nom du livre qui dit que du coup, effectivement, c'est l'homme qui l'a créé pour oublier l'ennui de la mortalité.
D'accord, ok.
Si je puis me permettre, quoi.
Très bien.
D'accord, c'est un point de vue, parce que l'ennui de la mortalité, je suis pas forcément d'accord, mais...
Non, alors pardon, c'est pas de l'ennui, c'est pour se détromper de la peur et de l'omniprésence de la mortalité dans la vie.
Oui, donc la peur de la mort, finalement, on y revient.
C'est ça, exactement.
Souvent. Très bien, ok. Bah,
et
oui,
toi, alors ?
Moi, j'aurais. Alors, du coup, c'est de manière très objective. Objective.
T'as regardé sur Wikipédia ?
Pas du tout. Ah. Non, vraiment de manière très objective. C'est pour ça que je voulais que vous répondiez chacun à votre tour. C'est que pour moi, ça, il ne s'agit pas forcément d'un divertissement, parce qu'il peut y avoir aussi des manières de dénoncer et d'où de raconter l'histoire, etc. Mais c'est plus une œuvre qui va être créée pour transmettre des choses fortes. Peu importe quoi, peu importe des questions, peu importe des émotions, peu importe donc de l'histoire ou de la créativité et quelque chose qui n'existe pas. Mm-hmm. Mais c'est vraiment un. Bah, de toute façon, c'est un média, donc c'est du partage.
Quand tu dis choses fortes, tu parles d'émotions.
Non, justement, des choses, bien ce que je dis. Émotions, faits, idées, ouais. Actualité, dénoncement, peu importe. Mais c'est créer un lien d'une manière ou d'une autre, de toute façon, un partage de soit de fictif, soit de réel.
D'accord. D'accord, très bien.
Ou de susciter effectivement une émotion en particulier, d'explorer une émotion, un domaine en particulier. Très bien. Du coup, en restant dans la même veine, est-ce qu'il y a des formes de cinéma que vous considérez comme, bah, pas du cinéma, comme illégitime à voilà. être appelé du cinéma?
Waouh,
c'est, ouais. c'est l'instant boomer.
Moi j'ai une réponse, mais
vas-y.
Bah, on t'en prie.
Bah, le porno, en vrai. Enfin...
Ah ouais ?
Ouais, en vrai, ouais.
Ok, d'accord.
Pourquoi ?
Bah, ça dégage rien, enfin.
Bah, une citation quand même.
Ouais.
Je suis pas d'accord avec toi, je suis pas d'accord avec toi. Permets-moi de pas être d'accord avec toi.
Ouais, mais c'est un petit peu. D'ailleurs, il y a un film là, Emmanuel. Tu l'as vu ou pas au cinéma, Thomas ?
J'ai vu le film d'origine.
Ah, c'est un film d'origine ?
Oui. 60.
Mais je trouve les films comme ça, ça n'a pas d'intérêt en fait. Enfin, bon, c'est pas. Bah, de la merde.
Pour toi, ça apporte rien.
Non, ça apporte rien.
D'accord, ok. Thomas ?
Moi, je crois. Écoute, non, je vois rien du tout. Le cinéma, le cinématographe, c'est des images qui bougent avec du montage. Enfin, c'est du montage en fait. Le cinéma, c'est du montage. Donc, chaque image montée, en vérité, est du cinéma pour moi. Voilà.
Donc, un vlog est du cinéma ?
Ouais.
Ah, ouais, j'avoue.
Ouais.
Okay.
En vrai, ouais.
D'accord, il y a des vidéos, YouTube,
ouais,
etc.
Ouais, ouais.
Ok.
Enfin, le oui, cinématographe, quoi.
Définition, oui, c'est sur la définition.
Mais d'ailleurs,
technique là.
Trop sous-côté, mais les documentaires au cinéma, c'est trop bien.
Oui.
Bon, alors, les gens vont pas les voir, mais.
Non.
C'est trop bien.
Voilà. Jean-Jacques Hano.
Jean-Jacques Hano, un exemple de film de
Océan.
Ok.
Ah, bah bien. Si, je crois que c'est celui.
Ah, bah, voilà. Comme quoi.
C'est le plus connu, c'est le plus connu.
Ok, très bien.
Et toi ?
Non, bah non, moi c'était juste pour avoir plus vos avis à vous.
Toi t'aimes tout, toi, Amy.
Oui.
Ouais.
Oui.
Y a que Valou, que Valentin qui a donné un avis très précis, très tranché sur.
Oui, oui, mais parce qu'en même temps, je vois ce qu'il veut dire, c'est une catégorie qui sort de l'ordinaire et qui sort du mainstream du cinéma, de ce qu'on a l'habitude de voir et de ce qui est plus souvent partagé et véhiculé.
L'histoire du cinéma pornographique, elle est très intéressante en réalité. Hein.
Ah ouais ? Tu t'y connais ?
Bah un petit peu, parce que comme on en parlera un petit peu après, du coup Emilie a dit, alors je fais pas de porno, hein, mais je
pas encore, pas encore.
Je m'intéresse un peu à l'histoire du cinéma, et l'essor du cinéma pornographique,
ah ouais,
c'est assez intéressant d'où ça vient et de comment ça est devenu.
Bah tu peux m'en parler un peu là.
Bah c'est pas le thème,
c'est bah le thème. Si c'est le thème,
alors très vite fait.
Enfin, c'est pas le thème pour Valentin, mais c'est le thème pour nous deux.
Comment ça ?
Et t'as dit que c'est pas du cinéma.
Ah oui, oui.
Non, mais en fait, ça arrive dans les années 50-60 aux États-Unis et ça vient d'un milieu très très underground. Et en fait, ça remonte beaucoup plus après dans le. Qu'on appelle ça, dans la bourgeoisie. Et c'est très très exclusif dans les années 80-90.
Okay.
Et après, ça redevient beaucoup plus populaire avec l'avènement d'Internet. Mais juste avant l'avènement d'Internet, c'est très 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 bourgeois. C'est-à-dire que.
Ah ouais ?
Ouais. Il n'y a plus du tout ce succès-là populaire qu'ont les gens d'aller dans les salles. Je sais pas si vous avez vu, je suis une Taxi Driver, où le personnage de Robert de Niro, il fait un date avec la meuf dans. Ils vont voir un film porno en date. C'est marrant ce moment-là. Et alors, le film ne l'est pas du tout, mais. Et donc, du coup, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un côté. C'est-à-dire que le cinéma porno dans les années 70, je pense, faisait plus de chiffres que le cinéma.
Ah ouais ?
Ouais.
Très, ok, ouais, effectivement.
Aux États-Unis,
très
en tout
intéressant.
Cas.
Très voilà. Bien, merci pour ce petit point histoire. Bon bah voilà, je vous propose de clore cette introduction pour l'instant. On revient tout de suite. On va s'écouter des petites musiques de films évidemment. Ouais. Donc on commence avec Always Remember Us This Way de Lady Gaga du film A Star Is Born. Butters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul. Like California gold, you found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun this way, lovers in the night, though it's trying to ride, we don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're welcome. cette chanson. C'est toujours l'antenne des voisines, la rentrée. Je suis toujours avec Thomas.
Oui, coucou.
Et avec Valentin.
Bonsoir à tous et à toutes.
Ben voilà, on est en train de parler de cinéma ce soir. Yes. J'espère que tout le monde va bien encore une fois.
Ça va super.
Vous nous écoutez peut-être en train de manger, en train de faire à manger, en train de rentrer. Bon, à 20h, j'espère quand même que vous êtes rentrés depuis un petit temps.
Faut aller se coucher là.
Non, calme-toi.
Ah. Encore, et où?
Mais donc, retour à notre sujet du jour.
C'est quoi le sujet du jour?
Le cinéma, je viens de le redire. Si vous pouviez suivre, ça serait intéressant.
Le 7ème art, frérot, tu connais?
Non.
D'accord.
Donc, on parlait de cinéma, on parlait de nos définitions, ouais, de ce que c'était, de si on considérait qu'une forme de cinéma n'en était pas une, etc. pour nous. Du coup, la question qui suit, c'est à quoi vous êtes le plus sensible dans un film ou dans le cinéma en tant que... Comment on appelle ça?
Spectateur.
Non, non, en tant que... Pas production, enfin bref, en tant que industrie. Ah. Pardon, excusez-moi, je perds mes mots ce soir.
C'est-à-dire, t'as un exemple?
Non, je peux finir ma phrase?
Tu peux, hein.
Pour moi, c'était fini, mais pardon, désolé.
J'ai dit quoi alors?
J'ai dit, à quoi vous êtes plus sensible dans le cinéma en tant qu'industrie?
Oui, mais du coup, j'allais finir sur chacun, encore une fois, indépendamment des réponses des autres. Vous, personnellement.
Ça m'a perdu cette phrase-là.
Qu'est-ce qui vous touche le plus, ou auquel vous êtes le plus sensible, ou à quoi vous faites le plus attention?
Tu veux dire, dans un film?
Oui.
Très bien.
Mais commençons par toi, tu sais quoi? Commençons par toi, Amy.
Moi, clairement, il y a la musique hein, qui arrive en gros.
Ouais.
Je suis capable de pleurer devant une bande-annonce si la musique est bien faite et qu'ils mettent qu'il y a un bon montage, etc. Donc voilà.
Ok.
Et non, après, c'est plutôt des thématiques et je suis très empathique, donc ça va être vraiment si j'arrive à rentrer dans le film. Et voilà, quand il se passe des choses après touchantes, je pleure aussi, quoi.
T'as des musiques de films qui t'ont marqué un peu ou pas?
Bah oui, 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 pas qu'une.
Genre quel film?
Bah genre beaucoup de musique d'Interstellar. Ok. J'ai beaucoup de musique de série aussi, mais les musiques du Seigneur des Anneaux. J'ai un moment où je m'écoutais en boucle les BO de Twilight.
Ah ouais?
Ouais. Les musiques d'Harry Potter, toutes les scènes fortes et marquantes de toute façon de tous les films qui m'ont touché et qui m'ont été importants sont toujours dans mes playlists.
Ah ouais? T'écoutes vraiment ça en mode premier degré?
Ah oui, ah, okay. Ça fait partie de mon dossier classique dans Spotify.
T'écoutes Oppenheimer ou pas les musiques?
Non.
Ah.
J'ai beaucoup aimé Oppenheimer, mais c'est pas un film qui m'a touché.
Ah ouais? Ah mince, ok. J'aime trop les musiques.
J'ai beaucoup aimé, mais.
Mais ok, ça marche.
Voilà.
Ok. Mais ouais, non, mais t'as raison, mais les musiques, c'est une folie, en vrai. Vas-y, dis-nous.
Moi, j'ai. Je dirais, c'est les aspects sur la mise en scène. Et c'est les aspects de l'originalité de ce qu'on a voulu nous montrer. Enfin, en vrai, ce qu'on veut nous montrer, c'est pas forcément original, mais la manière dont on nous le montre.
Mm-hmm.
Et voilà, je trouve que ça c'est intéressant en fait. Les manières de montrer les choses et les manières de nous faire comprendre les choses. Parce que quand on parle de cinéma fiction ou encore même de documentaire par exemple, effectivement, ce qui compte, c'est. Enfin, moi ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont on nous propose quelque chose. Et ça, c'est comme dans toute œuvre d'art en fait, c'est la manière dont on va nous proposer le propos,
oui.
La forme.
Mais du coup, c'est pas forcément toujours nouveau.
Non.
Tu dois être plus sensible à certaines formes qui ont déjà été vues et revues et refaites.
En vérité, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la manière dont on le fait et c'est la manière de pourquoi est-ce qu'on le fait comme ça.
Oui, je sais, c'est bien ce que je dis.
Oui, bien sûr. Oui, non, c'est pas une question de nouveauté, en vérité. Mmh. C'est une question de... Enfin, la nouveauté, c'est très stylé quand on nous fait voir un truc qu'on n'aurait jamais pensé le voir comme ça. Mais bon, parfois, un petit classique des références, tu sais, le cinéma, c'est rempli de références à Chaplin, à Buster Keaton.
Oui, de Preven, oui. De
références qui
vivent de plus en plus.
Ouais, je suis un prouveur.
Du coup, Valentin?
Moi,
à part
moi,
la musique?
Ben, alors moi, j'aurais dit, en fait, un truc un peu bête, mais les vedettes, genre en mode... je trouve justement que c'est très fort d'avoir un film sans vedettes. Sans genre acteur ou actrice un petit
tu
peu très connu.
Des palmes machos?
Non, pas du tout. Bah, en fait, un film qui va te faire des émotions de fou au niveau du jeu d'acteur avec des gens qui sont pas connus ou quoi, je trouve que c'est très, très fort parce que du coup, on est un peu acquis quand on va voir un film, tu vois, avec des acteurs qu'on connaît tous et tout, tu vois. On va être un peu, genre par exemple, Comte de Monte Cristo. Enfin, si t'aimes Pierre Niney, tu vas forcément aimer, tu vois. Alors que ce même film avec un acteur pas connu et qui a le même résultat. Enfin, ça peut être ouf, tu vois.
Oui, tu veux dire que quand il y a une tête connue, ça avance déjà un certain degré de succès. Mais
genre un film sans vedette.
Mais oui.
Un film sans vedette qui est réussi, enfin, je trouve que c'est trop, trop fort, quoi.
Oui, je comprends, effectivement. T'aimes bien découvrir des nouveaux talents, quoi.
Ouais, c'est ça, un petit peu côté producteur, un petit peu, tu vois.
C'est quoi le dernier talent que t'as découvert?
Ah.
Au cinéma,
je pense.
La dernière acteur-actrice où tu t'es dit, cette personne-là, masterclass.
Il y a un film très peu connu, mais c'est un film avec François Damiens qui s'appelle
Monquette.
Non, avec mince, c'est un truc avec Jacques Brel là. Peut-être tu le connais.
L'homme, non. Jacques Brel et François Damiens dans
Ouais. Mais il y a une actrice qui s'appelle Salomé, je sais plus comment.
L'emmerdeur.
Non, c'est né sous le Marquis du Vent, je sais pas quoi, un truc comme ça.
Mais bref,
voilà.
Dans ce film, il y avait des acteurs inconnus que t'as trouvé.
Une actrice très forte et tout, mais enfin bon, voilà, rien de plus. Hein,
ok.
En détente.
Bah, moi là-dessus, tu vois, sur ce qui me touche le plus en général, c'est les talents d'acteurs d'enfants.
Ah ouais, de fou en vrai, de fou.
où bah du coup en général c'est quand même très peu souvent connu et
moi j'en regarde des boutons
régulièrement
genre.
pas forcément je me prends régulièrement des claques à me dire le petit la petite là, 12 ans et il est capable de faire ça quoi, c'est fou. Donc du coup ok très bien, ça nous amène effectivement donc à notre autre sujet auquel on allait arriver depuis le début, Thomas.
Oh, on parle de lui.
Bonsoir.
Il me semble effectivement que le cinéma est un petit peu plus qu'une passion et qu'un hobby que tu consommes, mais également quelque chose que tu crées et que tu as aspiration
c'est
à...
C'est vrai.
Je t'en prie.
Tu veux faire ma bio?
Ouais, je veux pas que tu fasses ta bio, justement, en quelques lignes, est-ce que tu peux nous expliquer?
Non, j'ai fait une école de cinéma et puis j'ai réalisé un court-métrage.
Oui, attends, on peut revenir aux bases. Depuis quand est-ce que tu as cette envie? Comment c'est venu, etc. Depuis que t'es né, carrément, t'es sorti du ventre de ta mère et ciao, le cinéma.
J'ai réalisé mon premier court-métrage, j'avais 5 ans. J'ai pris la caméra de mon père, j'ai pris mes doudous, mes peluches et tout, et j'ai fait un film tout seul. Et derrière, je l'ai monté, j'ai doublé les peluches, j'ai fait les voix des peluches. Et
c'est trop mignon.
Le Mozart du cinéma.
Non, on va se calmer. On est où là? Mais voilà.
C'est
ça, ça m'est venu parce que mon père, il aimait bien ça, et ça lui faisait bien, donc il m'a montré un petit peu comment ça marchait, et moi j'ai fait vas-y, let's go, je veux faire ça. Voilà.
Et donc tu as fait une école de cinéma par la suite.
Une école de cinéma qui coûtait très cher. Et après j'ai continué un peu mon chemin. Mm-hmm. On a créé avec des amis.
C'est beau.
Une association de production, mm-hmm. d'accompagnement artistique et donc du coup de production de cinéma. J'ai réalisé un court métrage. Là j'en ai réalisé un deuxième que je suis en train de monter. Et voilà quoi. Et on vit la vie quoi.
Eh ben c'est parfait justement. Est-ce que du coup tu pourrais nous partager un peu plus comment ça se passe la réalisation d'un court-métrage, puis quel est le but par la suite?
Un court-métrage.
Un court-métrage, un long métrage.
Déjà
peu
faut avoir un, à la
de
base.
Décrire un peu le processus de.
Il faut avoir une envie. Un scénario. Donc écrire un scénario alors que quelqu'un t'écrive un scénario ou que tu trouves un scénario. Enfin bref. Et ensuite donc quand t'as le scénario, tu l'imagines. Derrière, si tu es réalisateur, réalisatrice, tu vas faire ce qu'on appelle, tu peux faire un storyboard par exemple. C'est comme une bande dessinée où tu dessines les plans que tu veux faire dans chaque séquence. Tu dessines tes plans, en fait, tu dessines à quoi va ressembler. En fait, tu fais ton film en bande dessinée.
Ouais.
Ça, c'est un storyboard. Derrière, tu vas chercher une équipe technique, un directeur ou directrice de la photographie.
Des gens avec lesquels réaliser tout
par
ça,
exemple,
quoi.
Exactement.
Parce que s'occuper de ça tout seul, c'est compliqué.
Tout seul, c'est compliqué. Il te faut des gens...
D'avoir toutes les casquettes et tous les rôles.
Exactement. Il faut des gens qui puissent t'aider dans l'organisation. Donc, des assistants réalisateurs, ça s'appelle comme ça. Derrière, ton film... Alors, soit tu le fais tout seul avec ton argent et dans ce cas-là, t'es producteur, ou alors il faut de l'argent. Donc, il te faut des producteurs. Mmh. Il te faut des gens qui vont chercher de l'argent.
Qui injectent du film dedans.
Ouais. Exactement. En fait, un producteur va aller chercher de l'argent. Donc ton producteur, il peut aller chercher de l'argent à des régions. Tu sais, très souvent quand tu regardes des films, au début c'est marqué avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
C'est que du coup la région a donné de l'argent.
Exactement, parce que t'as tourné dans sa région, t'as fait bosser des gens de sa région, enfin bref, c'est des règles de subvention. T'as le CNC, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, qui lui du coup s'est subventionné en fait une partie par l'État et une partie par les revenus des films en salle. Et eux ils ont plein de projets de subvention, de financement, donc ça faut envoyer des dossiers machin pour faire se financer. Et puis tu peux avoir des financeurs privés. Tu peux avoir, si c'est un film professionnel, tu peux avoir Canal+. Canal+, faut savoir qu'ils sont obligés de financer 50% du cinéma français.
Et ils sont obligés.
Oui.
D'accord.
En fait, c'était dans leur création. Ils voulaient faire une chaîne avec un abonnement payant et diffuser des films avant leur sortie, enfin avant la chronologie des médias. Je sais pas si vous connaissez. Avant qu'ils soient, enfin, je crois qu'eux ils ont le droit de diffuser 6 mois après la sortie du film.
D'accord.
Mais sur ça, du coup, ils ont un accord avec le CNC pour le faire, et du coup, ils sont dit d'accord, vous pouvez faire ça.
Mais
et vous pouvez être payant. Vous pouvez diffuser des films le vendredi et le samedi soir. La télévision, les chaînes gratuites n'ont pas le droit de le faire.
D'accord.
Et vous pouvez faire ça, mais vous devez financer à hauteur de 50% minimum le cinéma français. Donc c'est facile d'avoir. Enfin, c'est facile. Faut aller voir Canal+ pour se faire financer, parce que c'est un très grand financeur.
C'est un bon moyen d'avoir, donc.
Exactement. Okay. les chaînes télé, elles financent, France Télévisions finance, TF1 finance, M6 finance.
Ok, bah c'est intéressant, oui, parce que tout ça, exactement. On ne le sait pas forcément.
En gros, vous trouvez, l'argent, c'est le nerf de la guerre.
Oui, bien sûr, effectivement.
Et une fois qu'on a tout ça, je sais pas, en termes de temps, dis-moi hein, si c'est trop long.
Non, c'est super, ça aide du développement de plein de choses qu'on ne développe pas suffisamment, je trouve. Enfin, je pense que c'est quand même assez fou dans la tête de beaucoup de gens comment ça se déroule.
Derrière, donc, si vous êtes réalisateur, il faut que vous ayez. En gros, il faut que vous ayez deux personnes qui sont très importantes dans la suite. C'est quelqu'un qui va être directeur ou directrice de la photographie. Donc, lui, il va gérer tout le département de l'image.
Oui.
Et avoir du coup un chef opérateur, enfin chef opérateur image, chef opérateur son, donc qui va gérer le son de ton film, que ce soit la prise de son, que ce soit après en post-production sur le montage de son, et un assistant réalisateur. À partir de là, tu fais un découpage technique, c'est-à-dire que tu écris, c'est gigantesque, hein, chaque plan que tu vas tourner. Qui va te servir sur chaque séquence.
Très précisément ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut faire,
comme
etc.
Comme ça, tout est chef de poste, tout est chef sur le qui vont être là pendant le tournage. Donc, image et son pour gérer l'image et le son, et assistant réalisateur qui va gérer l'organisation du tournage. Mm-hmm. Donc, comme ça, ils savent tout ce qui se passe.
Précisément, etc.
Précisément,
c'est ça qu'on arrive à faire tourner le truc avec autant de gens.
Exactement, ils savent chaque plan, ils connaissent chaque plan, ils savent ce que veut le réalisateur, enfin bref, ils savent tout. Mm-hmm. Et ensuite arrive le tournage, donc le chef opérateur image va chercher un cadreur, quelqu'un pour la lumière, enfin quelqu'un.
Chacun est responsable
caméra,
de son poste en
exactement,
fait.
Exactement,
chacun de son pôle plutôt. Équipes,
exactement. Ouais. Le son, pareil, va chercher un perchman, un mixeur, ouais. Voilà. L'assistant réalisateur va chercher deuxième assistant réalisateur, troisième assistant, régisseur général. Enfin bref, en gros, il va chercher tout ce qui est en charge d'organisation, mm-hmm. et de, comment on appelle ça, de logistique. Mm-hmm. Et ensuite, on tourne. L'assistant réalisateur, c'est lui qui va organiser les journées de tournage par rapport au découpage technique.
Okay.
C'est-à-dire qu'il va prendre chaque plan et il va dire bon, bah ce matin, on va tourner ce plan-là. Ensuite, on tournera ce plan-là, en fonction du lieu, des acteurs et des actrices qu'il faut avoir dedans.
Des emplois de chacun, exactement. Des besoins, des décors,
voilà.
etc.
C'est l'organisation,
etc.
quoi. Et puis derrière, ça tourne. Et d'ailleurs, au montage, on envoie tous les rushs qui sont envoyés au montage.
Ça monte pendant un certain temps.
Pendant un certain temps.
On y ajoute les musiques, les effets spéciaux, les retouches, etc.
C'est très long. Hein.
Évidemment.
Comme ça, il y a un directeur de post-production, donc lui qui gère en fait justement l'organisation et bref et le budget et tout ce qui doit se faire pour le film. Mm-hmm. Mais derrière, quand vous sortez un film professionnel, par exemple long métrage. Ou court métrage, c'est pas tout. Un court métrage, généralement, il va vivre en festival. Parce qu'il n'y a pas de diffusion court métrage dans les cinémas. Voilà, il y en a
très peu. Festival, ouais.
Festival. Il faut que la boîte de production, en fait, trouve. D'ailleurs, quand on a la boîte de production, on doit trouver ce qui s'appelle une boîte de distribution. Les distributeurs, ils vont, par définition, distribuer le film.
Ils vont vendre le film, non ?
Exactement. C'est des vendeurs.
Ouais.
Donc, pour les court métrages, ils vont les envoyer en festival. Clermont-Ferrand, le festival de Clermont-Ferrand, qui est le plus grand festival international de courts-métrages qui existe. Mm-hmm. Et là-bas, en fait, avec les courts-métrages, bah, tu peux aller gagner des prix, tu peux aller gagner des financements pour d'autres films.
Voilà, ok.
Et parfois, t'as beaucoup de producteurs qui vont voir les courts-métrages.
Donc,
et
tu
qui,
peux
du
aussi
coup,
gagner en renommée.
Et tu gagnes en renommée, exactement. Pour, par exemple, si tu as envie de faire produire un long métrage. Et bah, faut d'abord que tu fasses ton court-métrage.
En crédibilité et en légitimité.
Exactement.
Ok.
Et derrière, pour des longs métrages, les distributeurs. Et par exemple, des distributeurs très connus en France, t'as Pathé, t'as Gaumont. Mm-hmm. Aux États-Unis, t'as Universal, machin. Donc, et en fait, c'est eux qui vont vendre ton film aux salles, donc ils vont l'envoyer aux salles et ensuite ils vont faire de la communication sur la sortie de ton film.
D'accord.
Parce que c'est eux qui gagnent le plus de thunes, c'est les distributeurs qui gagnent le plus de thunes. Parce que les distributeurs achètent le film aux boîtes de production.
Et en reverse une partie
et
de ce qu'ils gagnent.
Ça dépend, c'est des dessus. Contrats. C'est des contrats.
D'accord.
Mais en tout cas, les distributeurs achètent le film. Comme ça, ça appartient. En fait, un film, je sais pas si vous avez déjà vu dans les droits des films, mais c'est
je
marqué.
Je pense pas que grand monde regarde les
non,
droits
mais par
des
exemple,
films.
Quand vous regardez des extraits à la télé. Je sais pas, bah tu me parlais du Comte de Monte Cristo. Comte de Monte Cristo, c'est Pathé. Et donc, du coup, Comte de Monte Cristo, et t'as un petit tiré à côté, t'as marqué Pathé Film.
Ouais.
Mais sauf que la boîte de production, c'est pas Pathé, c'est Chapter 2.
Okay.
Ça s'appelle comme ça la boîte de production. Sauf que le film, il appartient à Pathé parce qu'il a acheté les droits.
Mm-hmm.
C'est le distributeur, en fait. En fait, le film appartient au distributeur.
Ok, d'accord.
Voilà.
Bon bah voilà, mais écoutez, j'espère que c'est un peu plus clair pour tout le monde.
En moi, ça m'a. Vous m'appelez si vous avez des questions.
Moi, ça m'a éclairé déjà sur le pourquoi des festivals, parce que j'avoue que c'est une question que je me posais depuis un moment où j'avais du mal à comprendre.
De quoi?
Un festival. Pourquoi est-ce que. Enfin, quel type de métrage était donné à quel festival, pour quelle raison, pourquoi, enfin,
ça dépend,
voilà, qu'est-ce que ça apportait à qui, etc., etc. Est-ce que c'était que de la promo?
Oui. Pour les longs métrages, c'est que une histoire de promotion.
Là, tu viens d'apprendre que pour les courts métrages, c'est comme ça que ça vit.
Oui, voilà. Et les courts métrages, ça peut vivre que comme ça, parce que tu vas pas voir des courts métrages au cinéma.
Non, bah oui, bien sûr.
Et après, t'as les sorties DVD. Internet,
mais ça existe pas des cinémas qui sont spécialisés dans la diffusion de courts métrages?
Ça existe, bien sûr. Il y a des séances de courts métrages qui existent. Où tu diffuses plein de trucs. Le court-métrage aussi, il se fait acheter beaucoup en télévision. Il y a France 2 qui, tous les jeudis soirs, c'est une émission qui s'appelle Histoire courte. Et c'est 3 ou 4 courts-métrages qui diffusent.
Très sympa.
Et voilà, et du coup, et par exemple, tu peux aller à Clermont-Ferrand, donc festival de court-métrage, t'as quelque chose qui s'appelle le marché du film, où là tu viens vendre ton film, en fait, t'as des diffuseurs de films, de court-métrage, donc c'est très souvent des chaînes de télévision, mais ça peut être aussi des plateformes de streaming. Et du coup, tu leur vends ton film pour qu'ils le diffusent un certain temps. Enfin, c'est vendre des droits, quoi. Enfin, c'est du marketing, c'est du commerce. Voilà. Voilà.
Ok, d'accord. Mais merci bien, du coup, pour cette bonne explication. On peut effectivement constater, peut-être mieux comprendre pourquoi est-ce que les génériques sont si longs à la fin du film, déjà. Et qu'il y a bien des organisations et des raisons à tout ça. Valentin!
Ouais, dis-moi.
Est-ce que toi, t'as des petites expériences avec la caméra, d'une manière ou d'une autre?
Avec la caméra? Moi, pendant le confinement, j'avais essayé de faire des petits sortes de courts-métrages un petit peu avec mon frère. En détente.
Quand t'avais quel âge? Quand t'étais vraiment petit?
Non, c'était il y a 4 ans, c'était pendant le confinement.
Il y a 4 ans, j'avais pendant pas confinement. Écouté. Très bien.
En 2020.
Et alors?
Ouais, sympa.
Ça vous a
en vrai.
Plu? Vous avez fait quelque chose?
Non, c'est juste pour moi en vrai. Mais d'ailleurs, j'avais une question pour Thomas. Quand t'as pas les moyens, qu'est-ce que tu privilégies en premier sur ta production de film un peu, tu vois? Genre, tu privilégies quoi? L'image, le son? Après, tu vas me dire tout, mais genre, si tu devais choisir un truc en premier,
je pense que ce qui est intéressant, c'est que ton scénario, il est adaptable. Ton idée, elle est adaptable. Il faut avoir une idée à la hauteur des moyens qu'on a.
Ok, d'accord.
Et comme dirait Aurel San, pour faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme.
Ouais, okay,
en vérité, c'est vrai, mais c'est-à-dire que tu vas pas aller faire un Avengers avec un iPhone. Mais aujourd'hui, alors, pour faire les vieux, aujourd'hui avec ton téléphone, tu peux faire un très très bon film. Et franchement, t'as besoin juste d'un téléphone et d'une idée, et là ça te fait ton film. Vous savez que vous connaissez le film C'est arrivé près de chez vous?
Ça me parle, mais je l'ai pas vu.
C'est le premier film avec Benoît Poulvorde, qui est réalisé par Benoît Poulvorde et deux autres mecs, j'ai oublié leur nom. Il y a un budget de 200 euros.
Ah!
Et
ah,
après,
oui.
Ils l'ont envoyé au Festival de Cannes. Et là, ils ont eu prix du jury au Festival de Cannes.
D'accord.
Et,
wow.
Bref, ils se sont fait tous connaître comme ça. Et ils ont la carrière qu'ils méritent. Tarantino dit que c'est un de ses films préférés, top 5 de ses films préférés.
Incroyable.
Et là, les mecs, ils ont mis 200 euros dans le film, quoi.
Incroyable.
Et c'est là-bas. C'est et du coup, ils sont allés. En fait, tu peux aller dans des festivals sans distributeur. C'est les longs métrages, c'est très souvent ça qu'ils font. Tous les longs métrages que tu vois au Festival de Cannes, c'est le Festival du film indépendant à Cannes. Et donc, du coup, ils n'ont pas de distributeur. Et c'est là-bas qu'ils peuvent aller chercher des distributeurs aussi. C'est à ça que ça sert aussi, les festivals, pour les longs métrages.
Mais sinon, un truc plus connu, t'as Babysitting aussi. Tu sais, qui a été fait à la GoPro un peu pour éviter les frais de production, quoi.
Babysitting, ça a pas coûté et très cher. Bah, déjà, ça peut être très cher par rapport à ce que ça a ramené. Oui. C'est ce qu'on appelle un blockbuster. Ça ramène. Ça... Mais effectivement, c'était quoi ta question? Oui, c'est ça. C'est que t'as pas besoin d'avoir énormément d'argent pour faire quelque chose de bien.
Ouais.
Voilà. Si vous avez une idée, faites-le. Et je tiens à dire que les courts-métrages qu'avait fait Valou, étaient vraiment pas mal.
Merci, c'est gentil.
On peut les retrouver quelque part?
Dans mon iPhone, si tu veux. Je te le prête, là, je te donne le code.
Non, et Thomas, est-ce que t'as une petite promo à faire?
La promo!
Promo à faire, vous allez sur la chaîne YouTube de Jolie Prod et vous tapez Mon Doudou.
Ouais.
C'est mon court-métrage. Voilà,
Mon Doudou et donc Jolie Prod, qui est cette fameuse.
Association, exactement. Voilà. On les embrasse et gros bisous. Et
Tu cherches un sponsor, Émilie, pour l'émission, c'est ça?
Ouais, exactement.
Déjà.
J'ai capté. Hein.
Pourquoi tu crois que je pose toutes ces questions?
Ouais, on comprend.
Bon, et bien sur ce, on va faire une petite pause musicale histoire de reposer toutes les informations qui viennent de nous parvenir. En écoutant Lose Yourself du film 8 Miles, inspiré de la vie de Eminem, qui est donc un titre de Eminem. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it? Just let it slip. Yo. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out. He's choking, how? Everybody's choking now. The clock's run out, time's up, over, loud. Snap back to reality, oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity, choke. He's so mad, but he won't give up. No, he won't have it, he knows. His whole back to these ropes, it don't matter, he's dope. He knows that, but he's pro. He's so stagnant, he knows. When he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo. This old rhapsody better go capture this moment and hope it don't do better. Lose yourself in the music, the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music, the moment you own it. Your chance to blow, this opportunity comes once in a lifetime. You're at his soul's escaping through this hole that is gaping. This world is mine for the taking. Make me king as we move toward a new world order. A normal life is boring, but superstardom's close to postmortem. It only grows harder, homie grows hotter. He blows, it's all over. These hoes is all on him. Coast to coast shows, he's known as the Globetrotter. Lonely roads, God only knows he's grown farther from home. He's no father. He goes home and barely knows his own daughter. But hold your nose, cause here goes the cold water. These hoes don't want him no more, he's co-product. They moved on to the next smoke who flows. He knows dove and sold nada. So the soap opera is told, it unfolds. I suppose it's old partner, but the beat goes on. That it up, that on. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs' cage. I was playing in the beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept priming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And it's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the thought I caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming on her too much for me to wanna stay in one spot. Another Et bonsoir de nouveau, c'est l'antenne des voisines. Je vous retrouve toujours avec Thomas et Valentin ce
coucou.
Soir.
Coucou.
On fait notre entrée. Je rappelle aussi que vous pouvez d'ailleurs nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez écouter notre émission en direct, donc tous les jeudis de 20h à 21h. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site de rve.com et vous pouvez nous retrouver, nous, sur notre Instagram et notre Facebook, Les Vilaines Festival.
Ouais.
Voilà, voilà. Ce soir, du coup, pour cette reprise, on fait un petit thème chill. On parle de cinéma depuis tout à l'heure. Thomas nous a expliqué les différents rouages et mécaniques de comment se construit un film.
La mafia.
Pas du tout.
La mafia du cinéma. La mafia du cinéma.
Et je ne compte pas inviter de mafieux sur ce plateau. C'est pas le mood.
Non, normal.
Voilà, voilà. Et donc maintenant, j'ai des petites anecdotes, un petit jeu d'anecdotes qui va peut-être être un petit peu tombé à l'eau. On verra bien.
Oh
j'ai
non. Pourquoi
des anecdotes qui sont soit vraies, soit fausses.
Mais non. C'est un vrai ou faux du coup.
C'est un vrai ou faux, c'est ça. Non, pas vraiment. C'est plutôt trouver celles qui sont vraies, celles qui sont fausses. Bon, si vous voulez. Donc des petites anecdotes évidemment de cinéma, parce que les anecdotes chez les voisines, on adore ça. La première que j'ai, peut-être est-elle vraie, est-elle fausse, c'est que un acteur connu qui joue un sorcier barbu se serait écroulé en sanglots sur le tournage d'un certain film avec des petits bonshommes aux pieds poilus. Un acteur très connu.
Je parle de Gandalf.
Exactement. Vous gardez ça dans votre tête. La seconde, c'est que sur le film d'un autre, sur le tournage pardon d'un autre film très 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 connu, le film aurait été marqué par beaucoup beaucoup d'incidents. L'acteur, un des acteurs principaux aurait fait un arrêt cardiaque. Le réalisateur aurait menacé de se suicider. Et le troisième acteur serait arrivé sur le plateau sans avoir ni préparé son rôle, ni lu le livre donc qu'il devait lire. Qui
non, ça c'est vrai, c'est mon film.
Film.
C'est mon film.
C'est son film, pas du tout. Et puis en plus, ne serait pas du tout en condition physique pour jouer son personnage.
Ok.
Mais c'est qui ce mec?
Et enfin, la troisième petite anecdote, c'est que sur un film traitant d'un tueur en série, et d'une enquête de tueur en série, eh bien, un suspect de ce tueur en série dans la vraie vie aurait été retrouvé dans des salles de cinéma lors de sa projection.
Masterclass.
Un suspect en fuite. Est-ce que, effectivement, donc, vous pouvez me dire quels sont celles qui sont vraies, celles qui sont fausses, et si vous pouvez retrouver les films dont on vient de parler.
Attends, on est à quel quota de vrais ou faux?
Non, je peux pas dire.
Ah, tu peux
pas
dire.
Ah, ok.
Donc, là, okay. C'est que des vrais peut-être ou que des fausses?
Non plus, non quand même.
Non,
il y en a
quand même.
Au moins
bah,
une,
décide-toi alors.
Vraie ou une
ok, ok.
Bah, on ne comprend pas le concept.
Est-ce
wow.
que vous, à la maison, vous avez
deviné? Moi, je pense
deviné.
Que j'ai.
Thomas,
attends, tu peux redire la troisième, s'il te plaît.
La troisième, c'est qu'il y a un film sur une enquête sur un tueur en série et un suspect en fuite aurait été retrouvé dans les salles de cinéma pendant la projection du dit film.
J'aime bien celle-là, je l'aime bien. Elle est vraie.
Du coup, faut dire sur les trois. Hein.
Oui, faut dire sur les trois.
Pour moi, redis-moi la deuxième quand même. En vrai,
la deuxième. Le tournage sur lequel un acteur fait un arrêt cardiaque, un deuxième acteur n'est pas du tout en forme, en truc, en machin, et le réalisateur menace de se suicider.
Non, c'est trop, c'est trop. Pour moi, c'est trop, je dirais deuxième faux.
Première,
c'est vrai, c'est sur Seigneur des Anneaux, là.
Ok.
Troisième, vrai aussi, et c'est sûr. J'ai pas de tueur en série en tête.
Thomas ?
Il y a un film là-dessus ?
T'inquiète pas, c'est pas grave.
Jeff Dahmer ? Ça peut être une série ?
Non, c'est pas ça, non, c'est un film.
Alors.
Je pensais que vous les connaîtriez, c'est pour ça que j'ai pas donné les noms. Je sais
la première, elle est vraie.
Que finalement...
La première, elle est vraie.
Ok.
Chez Gandalf. La deuxième, elle est vraie. Puisqu'il s'agit du film Apocalypse Now.
Bien joué.
T'es chaud, mec.
Oui. Et la troisième, elle est fausse.
Tout à fait.
Bon alors.
Elle est dans ma création. Effectivement, la première est donc vraie. C'est l'acteur qui joue Gandalf, qui s'appelle Sir Ian McKellen. qui a éclaté en sanglots sur le tournage d'un des Hobbits parce que avec les nouvelles techniques de tournage sur fond vert, il devait être en fait juste face à un fond vert dans une scène où il était censé parler à ses compatriotes acteurs.
Il a pleuré pour ça.
Et il s'est mis à éclater en sanglots, disant que ce n'était pas pour ça qu'il avait signé, que c'était pas pour ça qu'il faisait du cinéma, parce que c'est un acteur qui a aujourd'hui plus de 90 ans et qui est surtout habitué au théâtre et donc de jouer réellement avec le côté humain, de jouer avec quelqu'un d'autre, quoi, avec un autre acteur, etc.
Mon rêve de voir la scène.
Ce que je peux comprendre.
Il est pas très nerveux en
plus. Non, mais on peut comprendre. Pendant des années, t'as joué que avec des gens et d'un seul coup, on te met juste entre quatre murs verts. Tu dois prétendre parler à quelqu'un, mais en fait, tu parles à un mur. Enfin, c'est pas chaud, pas foufou. Et genre, après, ils ont été adorables par contre sur tout le reste du tournage. Tout le monde a fait en sorte de lui remonter le moral. Ils lui ont offert des fleurs, ils ont décoré sa loge. Ils lui écrivaient des petits mots encourageants, etc.
Oh, le caprice.
La deuxième, effectivement, du coup, c'était bien le tournage d'Apocalypse Now, où l'acteur Martin Sheen a eu une crise cardiaque pendant le tournage. Le réalisateur Francis Ford Coppola a menacé de se suicider. Et c'était l'acteur Marlon Brando qui est arrivé sur le plateau sans avoir lu ni le livre. Il était en surpoids alors que son personnage n'était pas du tout censé l'être. Et il n'était pas du tout prêt pour filmer. Donc ils ont dû faire appel à des petites techniques et astuces de tournage pour rendre un bon rendu. Et finalement, ce film qui aurait pu ne jamais voir le jour du coup est devenu un des films cultes. Et du coup, effectivement, la dernière, je voulais partir sur le film Zodiac. Valentin qui demandait quel était ce film-là.
Okay. Voilà,
c'est un film qui suit des journalistes qui reçoivent des lettres du tueur en série qui a existé, le tueur du Zodiac. Okay. Oui, Thomas, tu lèves la main.
Ouais, je voulais parler de ton anecdote sur Apocalypse Now.
Oui.
Il y a un documentaire qui existe. Qui s'appelle Au cœur des ténèbres, l'apocalypse d'un metteur en scène.
Sympa.
Et qui est en fait le documentaire de la femme de Francis Ford Coppola. J'ai oublié. Je l'avais en plus sous mes yeux.
Ça donne,
et
ça
en
donne
fait,
le ton.
Dedans, il y a des messages vocaux qu'il envoyait du coup à sa femme pendant qu'il était sur le tournage. Et genre des trucs très très bressons et tout, qui retrace l'histoire effectivement de ce tournage qui est un peu. Un peu catastrophique. D'ailleurs, il y a plein d'autres documentaires qui parlent de tournages catastrophiques. Mon préféré, c'est Fucking Katowice, qui est disponible en entier gratuitement sur YouTube.
Ok.
Donc, allez, je vous jure, à la fin de cette émission, allez voir Fucking Katowice. Fucking comme l'insulte en anglais et Katowice comme Mathieu Katowice. Qui parle du tournage de Babylon AD. Qui est catastrophique et en termes d'organisation et d'ailleurs on parlait de fonctionnement de cinéma français et américain qui était pas du tout pareil et bah là c'en est la très bon exemple, c'est-à-dire qu'aux États-Unis c'est les producteurs et les distributeurs qui priment sur tout, alors qu'en France c'est beaucoup plus le réalisateur qui va donner son avis et qui va être écouté. Et du coup Mathieu Katowice, quand il a été appelé par les Américains, il s'attendait pas trop à ça.
Et le choc a dû être un peu violent de passer. On écoute plus l'artiste, hein, on écoute plus les chiffres et le capitalisme, quoi.
Et c'est une grande gueule et bah surtout en fait que c'est pas les mêmes personnes qui donnent leurs avis. Et donc du coup lui, comme il avait des avis bien arrêtés, bref, ça s'est pas bien passé. Mais le documentaire est en même temps drôle. Et enfin surtout drôle en fait, il est très drôle, il prend du recul. Des trucs de fou furieux, à un moment donné il arrive sur le plateau le dernier jour et il brûle les scènes du scénario en disant de toute façon tout le monde s'en fout de mon film et genre il le brûle devant et tout, genre il n'est pas convié. Mathieu Katowice n'est pas convié à la réunion de préparation de la dernière scène et tout. Et du coup il reste assis et tout, il fait la gueule. À un moment donné, il déclenche une explosion, donc l'explosion elle coûte je sais pas combien, genre 10 000, 20 000 $. Il la déclenche au mauvais moment. Genre avant que ça, au moment où ça tourne,
il,
juste
lui
avant.
Ou il, l'équipe
non, non,
technique.
Non, l'équipe technique des explosions, des FX et tout ça. Et bref, genre à un moment donné, ils sont là en train de parler tranquille, puis bam, d'un coup ça pète, tout explose et tout.
Le carnage.
Allez voir, ça s'appelle Fucking Katowice, c'est très très drôle.
Bah, si vous êtes friands de ce genre d'anecdotes aussi, pour en avoir des plus courtes et plus variées, vous avez le youtubeur Sofiane qui a une chaîne YouTube sur le cinéma, qui a pas mal de petites vidéos par-ci par-là sur notamment donc les pires catastrophes sur des tournages, etc. Okay. Bon, bah ok. Là, j'ai une dernière question avant de passer ensuite à du plus cinéma comme on avait fait la dernière fois. Mm-hmm. Mais c'est pareil, je sais pas comment vous allez pouvoir répondre ou pas. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi à des améliorations techniques, technologiques, ergonomiques? Valentin me regarde avec des gros yeux. Dans soit la diffusion d'un film, soit la réception, enfin je veux dire le visionnage du film, que ça soit dans une salle de cinéma ou chez soi. Je veux me lancer pour vous donner des idées. Vas-y. Éventuellement. C'est-à-dire que moi, le concept de vivre le film en même temps qu'il arrive, comme ça a été fait par exemple dans certains parcs d'attractions, notamment le Futuroscope, etc. C'est ça, c'est la 4D. Donc d'avoir des sièges qui peuvent éventuellement bouger, mais bon ça, j'y suis pas très réceptive. Mais effectivement, d'avoir des courants d'air frais, des courants d'air chaud, enfin de nous mettre vraiment dans une ambiance, par exemple, qui se rapproche de l'environnement qui se passe à l'écran, ouais. De se prendre des gouttes d'eau quand il pleut, voilà, voilà, je trouverais ça sympa. Ou même qu'on nous diffuse des odeurs, ça, je trouverais ça incroyable.
Ok, d'accord.
Voilà.
D'accord, bah tu vois, au risque de choquer, je prends le risque de choquer.
Ouais.
Oula.
Sur ça, je suis un
qu'est-ce
puriste.
Tu vas dire
sur ça, je suis un puriste.
Voilà. Ouais,
le cinéma, ouais. Déjà, c'est 24, à la limite, 25 images par seconde. Là, James Cameron, Avatar 2, 25. Il nous sort 36 images par seconde, il nous sort Avatar 2. C'est quoi? C'est pas un film, c'est un jeu vidéo, le truc. Ah, je le dis. Je vais au cinéma, j'ai l'impression que je vois un jeu vidéo.
Toi, t'aimes quand c'est sale, un petit peu gras.
Exactement.
Un petit peu, tu vois.
Exactement. Ouais, là, l'IMAX, là. Le truc de la géode,
oh,
les écrans incurvés et tout. Je déteste ça. Genre, tu sais, les mecs, ils veulent faire à un moment donné comme si t'étais dans le film. En mode casque vert. Tu vois le casque vert? Genre, c'est ouais, trop bien quand tu joues aux jeux vidéo.
C'est trop bien le casque vert.
Mais tu me fais pas un film en VR. Bon, ça, non. Ça, non. Ça, non.
Non?
Ça, non.
Bah, c'était un peu
ça
ce
existe,
dont je parlais. Hein,
un film, c'est un point de vue. Un film, c'est un point de vue.
Oui, mais est-ce que tu penses pas que ça pourrait amener des nouvelles manières de justement d'amener les choses, de montrer
les
choses?
Je déteste cette idée.
Et pour moi, en fait, il a raison, parce que si on t'apporte un truc en mode la musique qui sort des sièges, le vent, la lumière qui bouge et tout machin, bah en fait, c'est facile un peu, tu vois.
Comment
en mode,
ça?
Bah en mode, forcément, tu vas aimer vu que t'es en immersion. Alors qu'un film qui arrive à te captiver sur un...
Par non, exemple... attends, tu vas aimer au début quand ça sera nouveau. Une fois que ça sera plus de la nouveauté, ça sera pas une question d'aimer. Juste, par contre, ça te mettra effectivement bien plus en immersion.
Non, mais en fait, la 4D, pour moi, c'est plus un gadget sympathique. Mais je trouve que... Je sais pas, peut-être que je suis un petit peu rétrograde en disant ça. Mais je trouve que ça n'apporte rien en termes artistiques.
Ok.
Mais c'est un côté technique, gadget, sympathique. Mais c'est comme la 3D. Dans les années 2010, tous les films qui sortaient, c'était
ouais.
en 3D. Tous
ouais,
les
ouais,
animés
ouais.
en 3D. À un moment donné, ils se sont rendu compte qu'en fait, ça coûte cher.
Oui, c'est ce à quoi je pensais, ouais.
Et ça fait mal aux yeux. Et donc, ils le font plus en 3D. On parlait d'Avatar. On sait qu'on parlait d'Avatar. Je suis allé le voir en 3D. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas vu le film en 3D.
Oui, oui, moi
ça durait
aussi.
3 heures en plus. Ça m'a fait mal aux yeux à la fin.
Ah bon? Non,
à la fin,
pas
j'avais
moi.
Mal aux
ah,
yeux.
De fou. Mais si, vraiment.
À la fin, ça m'avait pas manqué en fait.
Bah, pas moi, alors qu'en plus, j'avais mes lunettes de vue avec les lunettes 3D par-dessus. Donc, pour te dire.
Je vois pas ce que ça change, mais.
Mais de toute façon, les meilleurs.
C'était encore moins confortable que de base.
Ah! Non, moi je
et
te parle
pourtant,
vraiment des yeux. Non, je te parle des yeux.
Oui, j'ai compris.
Ok.
De toute façon, les meilleurs films que tu regardes, c'est les films sur ton téléphone à 1h du matin sur ton. Enfin, tu vois, genre en mode. Non, mais alors, c'est vrai, parce que si tout le monde arrive à te marquer, ça veut dire qu'il est excellent, tu vois.
Mais ça, voilà. Ça,
c'est facile,
moi,
t'es au cinéma, pas... forcément ça te marque, vu que c'est une grande salle, un grand
non,
écran,
non,
machin.
Mais non, si c'est là, pas un film que t'apprécies, voilà. Mais non.
Tu dis des bêtises, c'est pas vrai. Mais par contre, c'est vrai que je n'ai pas de. Enfin, comment dire, regarder un film sur un écran de téléphone, c'est pas grave.
Bah non.
Non, mais t'as plein de gens qui peuvent dire non, machin, cinéma et tout. Alors après, je préférais toujours aller au cinéma pour voir un film.
Pour le découvrir, oui.
Mais.
Et ça dépend quel film aussi. Il y a des films qui sont pas importants d'aller voir au cinéma.
Non,
hein.
Mais ce qui compte, ce qui compte sur le film, c'est de le voir.
Émilie, est-ce que tu me permets une question?
Oui, vas-y.
C'est quoi la meilleure place au cinéma pour vous?
Pour
vous
moi,
vous placez où?
Pour moi, c'est vraiment au milieu. Bah, au milieu de la salle, sur les côtés.
T'es pareil.
Non, lui, il veut être devant.
Tout devant?
Oui,
non,
lui, il veut
non,
être
non, 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 non.
Il veut être sur les côtés, pardon. Il veut être sur les côtés.
Mais ça, c'est pour pécho.
On va voir. Tout seul sur les côtés.
Ah ouais?
Bien sûr.
Mais pourquoi faire?
Parce que j'aime trop, mec, être sur le côté, je sais pas, j'aime bien l'angle que ça met, j'aime bien prendre.
Mais
prendre
t'es un fou.
De la.
Mais
ouais,
t'es
peut-être.
Fou.
Ouais, peut-être. Ouais.
T'aimes juste être seul en fait.
Oui, peut-être.
Mais Emily a raison, c'est au milieu, pile au milieu
mais
de la salle.
Bien sûr, pour avoir la meilleure
bien
vue,
sûr.
Le meilleur c'est prise, sûr, tout. Et puis, parce que sur le côté, c'est horrible, ça, l'image elle est déformée, mes yeux, pour le coup, ils aiment pas ça.
Même au fond, grosse connerie, au fond, ça sert à rien.
Ah bah, moi, c'est au fond sur le côté.
Au fond, c'est
mais frère, mais t'es au pire, sors de la salle, au pire.
Ou alors, j'aime bien aller tout devant.
Ok, c'est toujours l'un sur l'autre.
Il est bizarre, votre pote.
Bah non, mais voilà.
Changeons de question, restons sur le même oui. domaine un peu, justement, ça va avec ce qu'on disait là, du coup, notre rapport intime à ça. Est-ce que vous avez un film qui vous a particulièrement marqué dans votre vie? Un là, qui sort du lot, qui
ouais.
vous vient.
J'ai aussi.
Let's go.
C'est mon film préféré de tous les temps. Ça s'appelle Héros de Bruno Merle.
Ok.
J'ai l'affiche, à côté de mon lit. Les gens qui sont allés dormir dans mon lit le savent. Et c'est un clown, c'est Michael Youn en clown blanc.
D'accord.
Valentin, tu connais, tu l'as déjà vu l'affiche.
Ça parle de quoi?
J'ai déjà vu l'affiche, ouais.
Ça parle de. Alors, je peux vous conseiller, mais il est disponible nulle part. Mais. Enfin, à part en DVD. C'est l'histoire de Pierre Forêt qui est joué par Michael Youn, qui est un chauffeur de salle. Et en fait, donc c'est un blagueur, c'est un mec un peu rigolo, mais personne ne le prend un peu au sérieux. Puis lui, il va commencer à pas aimer qu'on ne le prenne pas au sérieux, à pas être un beau gosse. Tu vois, lui, c'est un mec un petit peu rigolo, ça va le faire chier, tu vois.
Ouais.
Et en fait, il va prendre en otage, j'ai oublié comment il s'appelle, un chanteur un peu équivalent de Johnny Hallyday.
Ok.
Joué par Patrick Chenet. Gros bisous. Qui. Je fais ça comme si je le connaissais.
Comme s'il nous écoutait.
Patrick Chenet. Et en fait, il va le prendre en otage pour. Il va demander, en fait. Enfin, pour que les gens le prennent au sérieux.
Mm-hmm.
Et il va prendre en otage parce que lui, il adore, il est fan de lui. Tu sais, c'est un peu le mec beau gosse, c'est un peu le mec qui chante et
oui,
tout.
Mais on part un peu dans une histoire brosson, là, du coup.
Ah, c'est très très brosson.
D'accord.
Le film est très 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 beau.
Oui, oui, on est sur un mec qui est complètement dans sa bulle, dénué de toute réalité, qui ne se rend pas compte que ce qu'il fait est extrêmement grave. Et
en fait, c'est comme Joker. Il y a un peu un côté Joker, mais avec des vraies propositions de mise en scène.
D'accord, intéressant. Ah.
Voilà.
Todd Phillips n'a pas. C'est Todd Phillips, hein?
Non, ouais, Todd Phillips.
Il n'a pas proposé des vraies propositions de mise en scène.
Non, mais Todd Phillips, il a voulu. Voilà, il a
le
voulu.
Le
réalisateur
du Joker, donc.
Ouais, exactement, il a voulu prouver.
Arrêtez.
Bah, si, bah, c'est ça. Todd Phillips, je suis désolé, j'aime beaucoup le Joker, hein. Mais c'est un mec, il a voulu prouver. Moi aussi, je peux faire des films. Le mec, il venait de Very Bad Trip, il venait de Date Limite, il venait de tout ça. Il fait. Moi aussi, je sais faire des cinémas tristes, un peu auteurs et tout. Puis il a fait Joker. Joker, c'est Taxi Driver, hein. C'est Martin Scorsese. Hein. Voilà, ah, je le redis encore.
Ça dénonce ici.
Je le redis encore.
Non, si, si. Effectivement, on a eu cette conversion. Valentin,
moi,
le film qui t'a marqué?
Camping 2, moi. très non, marquant. Mais... Non, je rigole.
Ah, bah, ok. Moi, j'allais dire que ça.
Non, moi, j'aime beaucoup les comédies et je trouve que c'est sous-côté. Mais sinon, alors, en film, en France, c'est La Belle Époque avec Nicolas Bedos.
Oh oui, non, deux Nicolas Bedos, pardon.
Mm-hmm. Très bon film avec Daniel Auteuil. Voilà, je vous le conseille. Il est encore sur Netflix, il me semble. Et sinon, à l'international, j'aurais dit La Forme de l'eau.
Oh,
ah
j'ai
oui,
un très bon film
de qui?
Guillermo del Toro.
Oh
voilà, très beau film d'ailleurs qui passe dans les UGC là en séance spéciale. N'hésitez pas à aller le voir.
Ah bah oui, il y en a beaucoup en ce moment justement. Ouais, regardez, ouais. Il passe beaucoup les dimanches soirs et jeudi soir je crois de films anciens. Voilà.
Mais moi en vrai le thème qui me marque le plus. Bah en fait c'est trop bizarre, une histoire d'amour entre
un hybride
ouais, genre,
mi-poisson, mi-humain en gros
mais déjà,
et une femme.
La thématique romance et tout, moi j'aime trop hein, en vrai. C'est trop marquant je trouve. Voilà. Et toi Émilie?
Moi j'en ai un qui m'a marqué parce que c'est le film qui m'a sans doute fait le plus pleurer pendant un film.
Oh non.
C'est le film Si je reste qui est une adaptation d'un roman, si je dis pas de bêtises, de... Non, j'allais dire Marc Lévy, mais en fait c'est pas Marc Lévy. Je ne sais plus qui est l'auteur du livre, mais bref. Et c'est un film en fait qui raconte l'accident et la suite de l'accident très grave d'une jeune femme, enfin d'une jeune femme qui vient de finir le lycée quoi. Et qui sort de son corps et qui du coup est consciente à l'extérieur de son corps de tout ce qui lui arrive, de ce qui arrive à sa famille.
C'est okay. C'est un livre de Gail Forman.
Ah bah voilà, merci beaucoup.
Wow. Très réactif.
Et en parallèle, il y a des flashbacks de ses derniers mois de sa vie, de sa première histoire d'amour. Bref, et tout ça évolue en parallèle de son accident et l'état de chacun. Et c'est extrêmement triste et très éprouvant et émouvant. Et voilà. Et donc j'ai beaucoup pleuré pendant ce film-là. Je ne pensais pas pouvoir pleurer autant pendant un film.
Ça veut dire que vous deux, vos films préférés, c'est des films un peu sombres, quoi, un peu tristes.
Bah, La Forme de l'eau.
C'est pas film préféré, attends, c'est film qui nous ont marqué.
Oui, ok.
Moi, c'est mon film préféré.
Bon, bah toi, c'est ton film préféré. Moi, j'ai d'autres films préférés, des films qui m'ont marqué. Après, si, j'ai eu Dragon. le film d'animation Dragon.
Ah ouais, c'est marrant. Pourquoi?
Parce que c'est la première fois. Bah déjà, je pense que c'était l'âge aussi, que du coup, j'avais pas énormément de comparatifs et de choses que j'aurais pu voir avant qui étaient dans la même veine. Mais c'est la première fois que je voyais, en plus de ça, un film d'animation, mais peut-être même un film tout court, où il n'y avait pas les méchants et les gentils. C'est vraiment un film qui m'a marqué par rapport au fait que tout était nuancé, que et les humains vikings et les dragons, tout le monde avait ses raisons d'eux, tout le monde était gris en fait, pas gentil ni méchant, tout le monde se défendait, tout le monde avait ses trucs. Et j'ai vraiment bien aimé, je trouvais que ça sortait des codes habituels de ce qu'on avait l'habitude de voir. Puis bon, c'était très touchant aussi, de toute façon c'est... Dès qu'il y a des histoires fortes d'amitié entre un humain et une autre espèce, ça me touche beaucoup. Okay. Donc, du coup, voilà. Mais écoutez, les garçons, merci beaucoup.
Trop bien. Merci
pour cette première rentrée. J'espère aussi que ça vous a plu, chers auditeurs qui nous retrouvent.
Moi, ça m'a plu.
Moi aussi. C'est parfait. On se retrouve du coup.
Semaine prochaine.
Et ben, dans deux semaines plutôt.
Très bien.
On aura cette fois-ci une invitée. Je ne dis pas plus. Et voilà. Très bonne soirée à tous.
Bisous.
Salut.